I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Nous sommes en guerre.
Moi, je, personnellement, je m'étouffe.
Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon.
Merci.
Faut laisser la star tranquille.
Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. Vous en avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux. Pour la première fois dans le monde, un cas de grippe aviaire H10N3 a été détecté chez un être humain. Ça s'est passé en Chine et ça pose logiquement pas mal de questions. En fait, le 28 avril, un patient chinois de 41 ans a été hospitalisé dans l'est de la Chine pour de fortes fièvres, et au bout d'un mois, donc il y a à peine quelques jours, eh bien le personnel soignant s'est rendu compte qu'il était atteint de la grippe aviaire. Alors la grippe aviaire, qu'est-ce que c'est? On en avait parlé sur la chaîne il y a quelques mois. C'est donc une maladie contagieuse qui frappe les oiseaux et qui se propage notamment dans les élevages de volailles. En France par exemple, il y a des millions de canards qui avaient été abattus l'hiver dernier après la découverte d'une sorte de cluster, pour faire très simple, et donc ces canards avaient été abattus pour éviter que l'épidémie ne se propage. Ce virus contamine très rarement les humains, mais cependant, il y a eu plusieurs anciennes souches du virus, notamment le H7N9, qui ont déjà causé des contaminations humaines par le passé. Et par exemple, donc, le H7N9 avait infecté environ 1668 personnes et fait 616 morts depuis son apparition en 2013. Alors, vous l'aurez compris, l'homme contaminé en Chine n'est donc pas le premier humain malade de la grippe aviaire, mais en revanche, c'est le premier avec cette nouvelle souche du virus, donc le H10N3. Mais alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui de cette souche qui contamine les humains? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment cette personne a été contaminée, mais les anciens cas humains de la grippe aviaire, ils avaient été contaminés après avoir été en contact direct avec des oiseaux. C'était donc, par exemple, des employés dans un élevage de volailles. Après, selon les spécialistes, les risques de transmission entre humains reste très faible, donc en gros, il y a très peu de chances aujourd'hui que ce virus devienne le nouveau coronavirus et qu'il se propage entre humains prochainement, contrairement d'ailleurs à ce qu'on a pu entendre en ligne depuis hier. D'ailleurs, selon les autorités chinoises en tout cas, eh bien cette souche du virus est même faiblement pathogène, autrement dit, même si on est contaminé par le virus, il y a peu de risques de tomber malade de la grippe aviaire, et selon la Chine toujours, le malade pourrait d'ailleurs bientôt sortir de l'hôpital. Et il semblerait qu'il n'y ait aucun cas contact. Autrement dit, donc, personne dans son entourage qui a attrapé le virus. Bref, c'est une première pour cette forme de grippe aviaire. Ça fait logiquement réagir beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, parce que on a tous peur, et ça se comprend, d'un nouveau coronavirus, d'une nouvelle pandémie, etc. A priori, pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais logiquement, de notre côté, avec toute l'équipe, on reste vigilant. Et je vous tiens au courant, du coup, dans les prochains jours, si on a du nouveau, des nouvelles informations là-dessus. On continue avec un sujet à l'étranger, on va parler de l'Allemagne qui reconnaît pour la première fois avoir commis un massacre et même un génocide en Namibie lors de la colonisation au début du XXe siècle. Alors vous allez le voir, c'est un sujet historique qui est souvent méconnu et pourtant très intéressant et important à évoquer. En 1884, des forces coloniales allemandes se sont installées dans un territoire du sud-ouest de l'Afrique. Ce territoire, c'est celui qui correspond actuellement à la Namibie, et donc les forces coloniales allemandes s'y sont installées pour le coloniser. En 1904, donc 20 ans après, eh bien l'ethnie Herero, qui est en fait un peuple de la région, décide de se rebeller contre les colons qui ont volé leurs terres et leur bétail, et lors de cette rébellion, eh bien ils vont tuer environ 120 Allemands. Le truc, c'est qu'en réponse à ça, eh bien les colons allemands décident de mener une extermination de cette population. Certains sont déportés dans des camps de concentration en Namibie, d'autres sont chassés dans le désert où ils meurent de faim et de déshydratation. Et l'année suivante, par solidarité avec les Herero, eh bien un autre peuple de la région de la Namibie, qui s'appelle les Nama, se soulève eux aussi contre les colons, mais finissent eux aussi par être massacrés. Au total, c'est environ 65 000 Herero et 10 000 Nama qui ont été tués entre 1904 et 1908. Ça représente respectivement 75% et 50% de leur population d'origine. Et ce massacre est d'ailleurs considéré par de nombreux historiens comme étant le premier génocide du XXe siècle. Alors en l'occurrence, si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement allemand a officiellement utilisé pour la première fois le terme de génocide pour qualifier ces massacres. Et pour faire simple, l'Allemagne a donc reconnu avoir éliminé de manière intentionnelle et systématique un groupe en raison de son ethnie. Par ailleurs, après 5 ans de négociations avec la Namibie, l'Allemagne s'est aussi engagée à débloquer 1,1 milliard d'euros sur 30 ans pour participer au développement et à la reconstruction du pays. Et cet argent doit notamment servir à développer des infrastructures et le système de santé. Alors, même si le gouvernement namibien a estimé que cette reconnaissance par l'Allemagne était en fait un premier pas dans la bonne direction, eh bien, les représentants des deux peuples, Herero et Nama, ont rejeté cet accord voulu par l'Allemagne. En fait, eux estiment que c'est une insulte à leur existence, car selon eux, l'Allemagne a méprisé les descendants des victimes en ne négociant que avec le gouvernement namibien et pas avec donc les représentants des Herero et des Nama. Bref, pour résumer, il y a une reconnaissance de ce génocide par l'Allemagne et il y a aussi un accord financier. Le gouvernement namibien est satisfait de cet accord, mais pas les peuples qui sont concernés ou en tout cas qui sont issus de ces populations. En tout cas, un traité de réconciliation doit être signé prochainement en Namibie par le gouvernement allemand. On verra donc ce qu'il en est, je vous tiens au courant dans les prochaines semaines. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on va donc commencer avec cette première actualité. On va parler du Liban qui traverse l'une des pires crises économiques au monde depuis près de 200 ans. Et ça, en l'occurrence, c'est ce que dit la Banque mondiale. En fait, selon la Banque mondiale, qui lutte contre la pauvreté dans le monde, plus de la moitié des Libanais vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, donc avec moins de 8,5 dollars par jour. Et selon le rapport, la monnaie du pays, la livre libanaise, a perdu près de 90% de sa valeur et le taux de chômage a aussi fortement augmenté. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette crise. Il y a d'abord une corruption très importante au sein des gouvernements. Il y a aussi une mauvaise gestion de l'économie par les dirigeants actuels qui n'arrivent pas à former de réels gouvernements depuis 9 mois. Au-delà de ça, évidemment, la pandémie et l'explosion du port de Beyrouth en août 2020 ont aussi aggravé la situation. Bref, courage à tous les Libanais. Alors la deuxième actu de son bref, elle est vraiment beaucoup plus légère, mais ça fait plaisir aussi. Il y a une piscine suspendue dans le vide à 35 mètres de haut au-dessus du sol, la Sky Pool, qui a été inaugurée à Londres cette semaine. En gros, c'est une piscine qui est entièrement transparente et qui relie deux gratte-ciels d'un quartier très chic du sud-ouest de la ville. Selon le promoteur de la résidence dans laquelle se trouve la piscine, l'architecture de cette piscine serait une première mondiale. Alors cette piscine suspendue dans le vide à 35 mètres au-dessus du sol, vous l'imaginez, elle fait un peu débat. En tout cas, de toute façon, elle n'est pas accessible à tout le monde. En effet, il faut être membre de la résidence pour avoir accès à la piscine et donc faut avoir déboursé pas mal d'argent quand même pour se permettre un appartement dans cette résidence. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.